Alors bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. Ce soir, la Bibliothèque publique d'information est contente de vous présenter une table ronde sur les jeux d'argent et de hasard dans le cadre du nouveau festival du Centre Pompidou. Je laisse la parole à Marie Trespeuch qui va vous présenter les intervenants et la soirée. Merci.
Alors bonsoir à tous, donc, je suis Marie Trespeuch, sociologue et économiste à Orange Labs, qui est donc le laboratoire de sciences humaines du groupe Orange. Avant cette vie-là, j'étais à la Française des Jeux pour faire une thèse sur la libéralisation du marché des jeux d'argent. Et c'est plutôt à ce titre-là que je suis présente ce soir. Donc voilà pour moi, je vais vous présenter nos trois intervenants ce soir. Donc Marc Valeur, qui est psychologue, psychiatre, même à l'hôpital Marmottan, membre de l'Observatoire des Jeux et de l'ARJEL, qui, vous le savez, est l'autorité de régulation des jeux d'argent en ligne, qui a été mise en place en 2010. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages sur l'addiction au jeu notamment et sur les pratiques des joueurs. Et vous avez publié récemment un ouvrage sur Pascasius que vous nous présenterez plus tard parce que ça met bien en perspective les problématiques d'addiction dont on va parler en particulier ce soir. Alors à ma droite, il y a Thomas Amadieu qui est sociologue. Donc vous êtes chercheur post-doctorant au GEMAS à Paris-Sorbonne, Paris 4, et chargé d'enseignement en sociologie à Nanterre. Votre thèse, qui a été soutenue fin 2013, si je ne me trompe pas, s'intitulait « Sociologie des jeux de hasard et d'argent, croyances et rationalité ». Et vos domaines de recherche, c'est les dynamiques sociales des carrières de jeu, les déterminants sociologiques de l'addiction au jeu, donc vous avez une thématique commune assez évidente, et vous avez travaillé à partir de données quantitatives, les enquêtes nationales de prévalence de l'OFDT notamment, et vous avez mené des entretiens qualitatifs auprès de joueurs au sein d'une enquête in situ dans des points de vente de la Française des Jeux et du PMU. Marie Redon, enfin, géographe, donc on a un panel très pluridisciplinaire ce soir, c'est très bien. Donc vous êtes géographe à l'université Paris 13 à Villetaneuse, rattaché au laboratoire Pléiade et à l'UMR Prodige. C'est toujours des noms intéressants à l'université, n'est-ce pas? Donc vous avez travaillé en thèse sur les îles partagées, c'est ça? Partagées par une frontière politique qui a donné lieu à un ouvrage récemment, Des îles en partage. Donc Marie travaille plutôt sur les terrains de Haïti et du Timor, qui ont fait partie de ces terrains sur ce que vous allez nous présenter sur les jeux d'argent. Voilà, donc ce que vous m'avez expliqué, c'est que le jeu était une thématique qui était arrivée plus récemment que d'autres sur lesquelles vous travaillez, sur les frontières.
Ah oui, tout à fait récemment et de façon tout à fait opportuniste, en fait.
Alors, opportuniste, on verra pourquoi. Et pour commencer, donc, après cette rapide présentation de nos intervenants, j'aimerais qu'on démarre ensemble sur les différentes façons d'aborder le jeu. Que vous soyez psychologue, géographe, sociologue, j'ai l'impression quand même que les joueurs et le jeu peuvent être abordés de façon très différentes et on essaiera de mettre en valeur ces différences mais aussi les points communs. Donc voilà, je vous invite à présenter un peu l'approche disciplinaire de cette thématique des jeux d'argent. Qui veut
commencer? Bon, je vais commencer, je lance les hostilités. Alors moi pour ma part j'ai réalisé une thèse sur les jeux d'argent. J'avais un questionnement de départ qui était relatif finalement. Enfin, ma question de départ c'était pourquoi est-ce qu'on joue et finalement pourquoi tant de monde ça donne à un pari perdant. Donc c'était vraiment une question un peu presque, on va dire, d'économiste finalement. Pourquoi est-ce qu'on va s'adonner à des jeux alors qu'on perd alors qu'en général, quand on mise de l'argent, quand on fait un pari, la plupart du temps, on va chercher l'investissement qui sera le plus rentable. Et là, non, en fait, mon approche était différente. Était de savoir un peu quelle était la rationalité du joueur, qu'est-ce qui faisait qu'il allait jouer. Est-ce que c'était parce que finalement il croyait qu'il allait gagner? Est-ce que c'était en raison de croyances déformées? Ou est-ce qu'il avait une bonne raison de jouer? Est-ce qu'au contraire il avait des raisons fortes, peut-être en fonction de sa situation sociale, de jouer? Donc c'était un peu mon questionnement de départ, et à partir de là je me suis demandé comment répondre à ces questions. Et donc j'ai choisi deux terrains essentiellement. Le premier, c'est un terrain qualitatif, c'est-à-dire que j'ai réalisé des entretiens. Alors je suis allé dans des points de vente à Paris, des points de vente Française des Jeux, des points de vente PMU, et j'ai observé les joueurs et j'ai cherché à les interviewer. Donc j'ai réalisé des entretiens avec eux, une cinquantaine d'entretiens, en essayant de voir, de connaître leur biographie, d'essayer de comprendre quels étaient les ressorts, quel était leur parcours par rapport au jeu, quelles étaient leurs croyances, quelles étaient leurs motivations, etc. Et puis pour avoir une approche, j'ai adopté également une approche quantitative pour avoir un regard un peu plus, disons, généralisable sur les jeux d'argent. Et donc là, j'ai utilisé les données de l'OFDT, qui sont réalisées en population générale, donc qui sont assez riches. Et j'ai utilisé la seule enquête qui était disponible jusqu'à présent, donc celle de 2010. Désormais, on en a un nouveau, je pense qu'on en parlera. De nouveaux résultats sont tombés, donc on peut comparer aujourd'hui
peut-être
en 2015. Peut-être
préciser ce que c'est que l'OFDT pour ça.
Alors, l'OFDT, pardon, c'est l'Observatoire français des drogues et toxicomanies, qui, en fait, depuis 2010, a inclus les jeux d'argent dans ses centres d'intérêt. Donc l'argent étant considéré comme désormais une addiction, on aura l'occasion d'en reparler. Et donc elle fournit des données intéressantes que j'ai essayé de traiter. En plus de ça, il y a un troisième terrain. J'ai travaillé avec un centre d'addictologie à Nantes et j'ai récupéré des parcours de jeu et j'ai essayé de voir comment, dans les parcours de jeu de personnes qui consultaient dans une clinique d'addictologie, quels étaient les moments qui permettaient de comprendre pourquoi on bascule dans l'addiction, pourquoi on arrive à s'arrêter, etc. Donc voilà. Alors après, peut-être pour me situer par rapport aux autres, l'approche du sociologue, elle est peut-être un peu différente. Finalement, elle est peut-être. Enfin, on cherche à. Je veux pas parler peut-être trop longtemps, mais je
non,
parle
c'est
trop
pas
longtemps.
Marc Valeur a l'air de dire que ça a pas l'air si différent de. Voilà. Donc.
Il y a quand même, je pense, des petites distinctions sur la. Alors, c'est un peu frustre au niveau de la psychologie. Le sociologue va pas rentrer tellement dans l'inconscient de la personne ou ses mécanismes profonds. Il va plutôt chercher, en général, prendre au sérieux ce qu'il dit et essayer de comprendre. Quelle motivation il avance, et en général en considérant que ses motivations sont ses réelles motivations, et donc qu'il a des raisons de jouer et qu'il faut essayer de comprendre, tout en resituant cette rationalité, ces croyances, dans le contexte sociologique, le contexte culturel, le contexte social. Qu'est-ce qui fait que, selon son milieu social, pourquoi quand on est d'un milieu social plus défavorisé, pourquoi quand on est ouvrier, on joue davantage que quand on est cadre. C'est ce que j'ai essayé de saisir.
Voilà. D'accord. Alors justement, Marc Valeur, vous étiez en train de réagir. Est-ce que vous retrouvez certains aspects?
Oui, non, bien sûr. Non, non, j'avais une réaction parce que je pense que la réalité, à quelque objet qu'on ait à faire au quotidien, se moque un peu de nos classifications disciplinaires. Quand on a affaire à un joueur pathologique, un toxicomane, un patient, bien sûr, il vient voir quelqu'un qui peut l'aider, mais à chaque fois, on est obligé de faire, nous, pauvres toubibs, un peu de petite sociologie, de petite psychanalyse, de petite biologie, parce que les gens ont à voir avec toutes les disciplines, et si on ne fait que une monothérapie basée sur une seule discipline, on est un mauvais thérapeute. Voilà. Donc, les différences disciplinaires, la réalité s'en moque.
Et le sociologue, c'est le côté un peu frustrant du sociologue, c'est qu'il ne guérit pas les personnes qu'il interviewe. Il se contente de reporter ce qu'il raconte et les laisse à leurs problèmes.
Mais il peut avoir l'ambition de guérir la société, ce qui est très mégalomane.
Oui. Justement, vous, dans votre travail quotidien, Marc Valeur, vous recevez donc des patients à l'hôpital Marmottan, qui est devenu un pôle de traitement du jeu pathologique depuis 15 ans, 20 ans.
Oui, depuis assez longtemps. Donc moi, je reçois des toxicomanes depuis un peu plus de 40 ans au centre Marmottan. Et dès le début, très tôt, je me suis intéressé à la question du jeu, à partir de l'idée que les toxicomanes, en s'injectant de l'héroïne dans les veines, à l'époque, dans les années 70, jouaient d'une certaine manière avec la mort. Et à partir de la notion de conduite ordalique que j'ai développée, de jugement de Dieu auto-imposé, je me suis dit que le jeu d'argent devait être un formidable laboratoire pour explorer la relation d'un être humain à cette notion de risque. Et c'est à partir de là que j'en ai parlé. En 97, j'ai publié un petit « Que sais-je » avec Christian Bucher sur le jeu pathologique. Et très curieusement, ça nous a amené beaucoup de demandes de patients, de gens qui disaient « Mais j'ai besoin d'être aidé, c'est la première fois qu'on m'en parle comme ça. Est-ce que je peux avoir une consultation ?» Alors on leur a répondu: mais vous savez qu'on est à Marmottan, c'est héroïne, cocaïne, crack. Et le mot d'ordre au secrétariat était: si quelqu'un dit « mais moi c'est pire », dans ce cas-là, on lui donnait un rendez-vous. Et c'est comme ça qu'on a commencé, à partir de 1997, à recevoir des joueurs en se faisant engueuler par les pouvoirs publics, parce qu'à l'époque, on n'avait pas le droit. On détournait de l'argent destiné aux toxicomanes en recevant des joueurs pour lesquels on n'était pas payé.
D'accord. Alors justement, on reviendra tout à l'heure sur le travail de traitement et puis sur ce diptyque conduite ordalique et dépendance qui est assez central dans votre œuvre, si je puis m'exprimer ainsi. Et voilà, on y reviendra tout à l'heure, mais avant ça, j'aimerais bien que Marie, vous nous présentiez un peu ce que c'est que votre géographie des jeux d'argent et peut-être vous allez nous présenter une petite vidéo.
Alors du côté de la géographie, c'est assez tardif, contrairement à la sociologie où quand même depuis les années 60 au moins on s'intéresse au jeu, à la psychiatrie ou la psychologie où les addictions c'est assez ancien. Là en géographie, en gros, ça nous vient de l'intérêt pour la géographie des sports. C'est à peu près ça la filiation, avec dans les années milieu des années 80 un géographe qui s'appelle donc Jean-Pierre Augustin et qui s'est intéressé au département des Landes et en se demandant comment se partager entre ceux qui faisaient du rugby, ceux qui faisaient du football et du basket, et en reconstituant un peu de façon socio-historique le pourquoi du comment on fait tel sport à tel endroit. Et puis ensuite, comment est-ce que les jeux sont venus à la géographie ou l'inverse? C'est plutôt, je dirais, au début des années 2000. C'est-à-dire que là, on a vraiment une génération de géographes en émergence, avec, par exemple, Manu Borzakian, qui travaille, lui, sur les jeux de plateau. Donc il a fait toute une étude sur les jeux institutionnalisés et les jeux qui ont des fédérations à la fois nationales et internationales, comme par exemple le bridge, les dames, les échecs. Et il s'est demandé à quel endroit est-ce qu'on joue à quoi, avec une approche à la fois quantitative et qualitative. Et ça date, je ne voudrais pas me tromper sur sa thèse, mais en gros, c'est 2010. À peu près même période, on a aussi émergence de travaux sur les jeux vidéo, c'est-à-dire comment l'espace est construit dans les jeux vidéo. Alors déjà, à peu près à la fin des années 90, 97, on avait un premier article sur ces fameux jeux de plateau comme Risk, que vous connaissez tous, je pense, ou Civilization, qui sont des jeux un peu plus tardifs, mais qui mettent en scène de l'espace. Et donc, des géographes commençaient à s'intéresser à ça, mais de façon, on va dire, un peu anecdotique. C'est surtout à partir des années de pareil, 2005-2010, que là, il y a vraiment des travaux en profondeur qui s'intéressent à ça, encore une fois, sur les jeux vidéo autour de Samuel Ruffat et au Victor Minassian, par exemple. Donc, complètement en émergence. Et en gros, la géographie, qu'est-ce qu'elle peut faire des jeux ou avec les jeux? Les trois entrées principales, c'est un petit peu l'espace du jeu lui-même. Donc, ça va être sur les jeux de plateau, par exemple, comment est-ce que les joueurs se projettent dans l'espace? Comment est-ce qu'un joueur de bridge ou un joueur de go spatialise ses stratégies? Donc là, on est vraiment à l'intérieur du jeu. Ensuite, l'espace des pratiques. Et là, vous allez le voir avec l'extrait du film que j'ai montré après. C'est-à-dire que, du coup, jouer, ça veut dire jouer dans un lieu donné. Ce sont les bars PMU, par exemple, sur lesquels vous avez travaillé, ou ce sont les lieux, les casinos, donc des lieux précis dans lesquels on va jouer. Donc ça, c'est la deuxième entrée. Et la troisième, c'est la géographie de la production des jeux et de leurs pratiquants. Ça peut être tout ce qui est diffusion des jeux, par exemple, hein, une mode de jeu qui va se diffuser d'un endroit à l'autre, et puis tout ce qui est à quel endroit est-ce qu'on fabrique éventuellement les jeux, concrètement quand ce sont des jeux de plateau, ou où est-ce qu'ils sont pensés. Et si je reviens sur les jeux vidéo, l'idée de savoir qui a pensé SimCity ou qui pense des jeux où il faut construire des villes, c'est généralement plutôt des concepteurs de pays, qu'on dirait de pays dits du Nord, et qui projettent une vision de la ville idéale, qui est une ville, qui est évidemment une ville occidentale. De façon plus personnelle, donc je commence à travailler sur les jeux depuis assez peu de temps, hein, à peu près 2010, et je disais opportuniste tout à l'heure parce que ben, y a des sous, hein, la française des jeux donne des sous pour travailler sur les jeux. Et je n'ai aucun... je travaille sur l'étranger, donc du coup, en plus, il n'y a pas de... Comment dire, je ne me pose aucune question morale dans la mesure où, comme vous allez le voir, je travaille notamment sur Haïti et sur le Timor. Et là, je vais vous amener pour 2 minutes, 2 minutes 30, dans une gaguerre. Alors, une gaguerre, c'est un lieu de combat de coq. Donc, une arène de combat de coq ou un galodrome, si vous voulez. Et on va voir comment se passe un combat de coq. Et puis après, éventuellement, je pourrais vous dire qu'est-ce qu'on peut en tirer en tant que géographe de ce film qui a été... Alors, le film en entier est un peu plus long que ça, vous en doutez. Il fait 25 minutes à peu près. Il a été réalisé par Marie Baudin, qui est une géographe qui est actuellement en thèse à l'Université de Bordeaux. Voilà. Je peux lancer l'extrait, je pense, si ça fonctionne.
Gage a li bon apil. Kop mwen bom la kavi. Li fèm jwenn zami pou m pale. Li fèm ri, li fèm jwenn ajan. Li fèm jwenn ploum pou m manje tou. Premièrement qui sont faits ou lien pour apé pendant lien pour apé qu'on y a même regardé sur cani vraiment notre carrière doit dire oui n'a pas boumé. Et qu'on y a là nous faisait pont nous fait il nous faisait pour coq là
Voilà, je vais m'arrêter là sur cet extrait. Très rapidement, qu'est-ce qu'on peut en tirer quand on est géographe ? Là, on est au fin fond d'Haïti. On est dans un endroit qui est assez reculé, qui s'appelle les Abricots. Et ce que vous voyez là, ce lieu, cette gaguerre-là, qui s'appelle donc la gaguerre sans rancune, s'y déroulent des combats de coqs à intervalles réguliers. Alors, je me souviens plus du jour, je sais plus si c'est le lundi ou le mardi, mais un certain jour de la semaine. Pour aller là, il n'y a pas de route. Donc, il faut y aller à pied, par des petits chemins, il faut marcher plusieurs dizaines de minutes pour s'y rendre. Et si le lundi, vous allez à la Gaguerre sans rancune, le mardi, vous allez à une autre Gaguerre qui va être beaucoup plus loin dans les mornes, dans les collines, le mercredi à une autre, le jeudi à une autre, etc. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cartographié, avec Marie Baudin qui a réalisé encore une fois ce film, tous les endroits, toutes les petites gaguères qui étaient comme ça sur une commune. Et on s'est rendu compte qu'il y en avait partout et qu'elles n'étaient pas du tout connectées aux routes. Donc ce que ça dessinait, c'était d'autres trajectoires, d'autres chemins, d'autres itinéraires et puis aussi d'autres échanges, puisque tous les jours, vous voyez qu'autour de la gaguère, il se passe plein de choses. On peut manger, on peut jouer à d'autres jeux, hein, d'autres jeux d'argent. C'est un lieu de sociabilité et ce lieu, il va tourner d'une gaguère à l'autre, comme ça, au fur et à mesure de la semaine. Autre chose qu'on peut voir dans le film, c'est ce cash, cet argent qui circule un peu partout. Ce sont des gourdes, hein, c'est la monnaie haïtienne, c'est révélateur. C'est donc la monnaie haïtienne. Et on voit qu'il y a ce sont des toutes petites sommes qui circulent, mais n'empêche qu'elles circulent un petit peu partout comme ça, jusque, encore une fois, dans les collines du fin fond d'Haïti. Dernière information, notre romaine, à la fin, elle est très contente et elle dit « c'est un coq dominicain ». Il a gagné, mon coq, c'est un coq dominicain qui s'appelle 5 décembre, donc la référence quand même au côté français dans la langue, mais coq dominicain parce que les meilleurs coqs, ce sont ceux qui viennent d'ailleurs, ils viennent de l'autre côté de la frontière, ils viennent pas de là, et ils viennent notamment de la République dominicaine, qui est le pays voisin et qui est le pays plus riche. Donc on peut tirer, voilà, simplement, pas mal d'informations sur la façon dont, à travers cette scène dans une gaguère, le Haïti, on peut lire plusieurs formes de géographie d'Haïti du côté économique, culturel ou politique. On y reviendra plus tard. Voilà.
D'accord, merci beaucoup pour la présentation générale de la façon dont vous abordez cette thématique du jeu d'argent. Donc ce que j'aimerais bien maintenant aborder avec vous, et là ça fait parfaitement la transition, c'est peut-être commencer par parler des espaces de jeu, avant de parler des joueurs plus spécifiquement. Est-ce que Thomas Madieu, vous êtes allé dans des espaces de jeu, qu'est-ce que vous y observez? Là on a vu quelques échanges, est-ce qu'il y a une sociabilité ludique et que font les gens? Est-ce qu'ils jouent ensemble dans ces points de vente? Et puis après, on pourra évoquer ensemble, autour de ces sociabilités ludiques, de ces arènes, de ces dispositifs qui sont liés au jeu, on pourra se demander qu'est-ce qui se passe quand on passe en ligne, c'est-à-dire quand le jeu, on est seul face à son ordinateur, qu'est-ce que ça produit d'être seul devant un PC. Voilà. Donc Thomas, si vous voulez commencer.
Bah, effectivement, moi, quand il y a une sociabilité qui peut se développer. Alors, la difficulté, alors moi j'ai étudié plusieurs points de vente différents, des bars PMU, des points de vente où on ne peut que jouer au PMU, et des points de vente où un point de vente Française des Jeux dans lequel on rentre, on sort, on achète son ticket. Éventuellement, on peut remplir sa grille dans l'espace de vente, mais on ne reste pas. J'avais sélectionné ces trois points de vente parce que du coup la configuration du lieu effectivement influençait sur les comportements, la sociabilité qui pouvait s'y déployer, etc. Et du coup ça n'attire pas les mêmes joueurs parce qu'on ne va pas chercher le même type de sociabilité. On va chercher parfois la sociabilité, parfois ça ne nous intéresse pas, et donc effectivement c'est assez différent. Alors dans les points de vente, par exemple, dans les bars PMU, on peut consommer sur place de l'alcool. Alors, jusqu'à une certaine période, on pouvait fumer également. Mais désormais, on le fait à l'extérieur. Ce qui est un problème aussi, ce qui peut entraîner une baisse de la consommation de jeux, ça c'est une parenthèse. Les casinos ont été beaucoup pénalisés par ça. Ils regrettent qu'on puisse plus fumer dans les casinos. Mais bon, voilà. Donc, dans les bars PMU, il y a une sociabilité qui va se développer, notamment chez les turfistes, donc ceux qui jouent au pari hippique. Au moment où on va concevoir le futur pari, il y a des moments comme ça de débat, de discussion, de tuyaux. Il y a un enjeu autour des tuyaux. Qui est-ce qui a des informations, etc. Est-ce qu'on les partage ou pas? Donc c'est un mélange un peu complexe entre de la coopération parfois, mais aussi de la compétition. Et ça peut s'agréger, ça s'agrège par moment au moment de où on regarde la course, qui sont des moments de sociabilité intense comme ça, mais après ça se désagrège. Et moi, j'ai aussi assisté à beaucoup également de conflits autour de l'argent, parce que chez le joueur de PMU en particulier, il y a des questions de trouver de l'argent. Est-ce qu'on peut trouver de l'argent ? Et notamment, ça c'est un peu anecdotique, mais au cours de mon enquête de terrain, j'avais un informateur à qui j'ai fait l'erreur de prêter de l'argent. Et donc du coup, après, ça crée ce genre de problème. Mais il y a un enjeu important sur l'argent qui prête. Est-ce qu'on peut arriver à taxer à un moment donné ou pas ? Et ça, c'est un enjeu important, surtout quand il y a des problèmes, des thématiques d'addiction qui se mêlent à ça, qui sont importantes. Après, il y a des joueurs, le jeu touchant une population extrêmement large et quasiment toutes les franges de la population française, on a dans les points de vente françaises des jeux, par exemple, ceux qui ne vont simplement qu'acheter un ticket de loterie vont souvent le faire seuls, et ce ne sera pas le même public et ne recherchent strictement aucune sociabilité. C'est les joueurs que j'appelle les joueurs contribuables, ils vont acheter leur ticket. Parfois même, ils prennent un abonnement, on peut prendre des abonnements et on n'a même plus besoin de se rendre dans le point de vente. Et c'est vraiment les cas extrêmes. À l'inverse, c'est le pôle extrême inverse où la sociabilité n'a strictement aucun intérêt pour le joueur. Et simplement, alors, par contre, la sociabilité soutient l'habitude de jeu. Et ça, c'est important. C'est que on vient aussi au point. Enfin, la Française des Jeux, par exemple, va créer en ce moment, je crois que ça a été lancé, des jeux collaboratifs. Donc l'idée étant de permettre aux joueurs de jouer ensemble à des loteries. Tout en sachant très bien qu'en réalité, ça soutient l'activité. Souvent, les gens remplissent des grilles de loto et jouent à plusieurs. Par exemple, on joue avec ses collègues de travail ou avec des membres de sa famille. On joue ensemble et on remplit une grille qu'on paye à plusieurs et puis qu'ensuite, on se partage les gains. Et ça, ça soutient l'activité, évidemment, parce que ça crée une sorte de rituel comme ça, social, qui entretient l'activité. Et pour terminer sur cet aspect de sociabilité, on le voit bien, souvent les joueurs que j'ai rencontrés, et en particulier ceux qui estimaient avoir des problèmes de jeu, ceux qui sentaient qu'ils devraient freiner leur consommation, ont souvent des difficultés à le faire parce qu'ils sentent bien que... Enfin, ils ont des sollicitations, en fait. Des sollicitations parce que leur sociabilité s'organise progressivement autour du jeu. Et le point de vente devient le lieu où on va rencontrer ses amis, ses connaissances, ceux qui sont devenus des sortes d'amis. Et du coup, la difficulté ensuite pour celui qui souhaite s'arrêter, qui souhaite diminuer, c'est justement le fait que l'environnement social devient presque entièrement tourné autour du jeu, autour de cette activité. Voilà ce qu'on peut en dire.
Est-ce que vous voulez en...
Oui, juste une remarque sur les combats de coq. On voit bien qu'on a un lieu de jeu qui est un lieu de combat, et ce combat pourrait être une sorte de duel par procuration. Chaque camp va choisir un coq et il va être représenté par ça. Dans les courses de chevaux, c'est encore un pari sur l'animal, mais là, c'est le premier qui arrive, on ne les met plus à mort. Mais l'ancêtre de tout ça, il nous manque un historien ou une historienne. C'est les jeux du cirque où c'était idéalement un homme qui se battait contre un autre et où l'issue du combat était la mort. Et cette scénographie, d'une part, implique une séparation du jeu du reste de la cité. Il faut que le jeu soit séparé du reste de la vie quotidienne. Et d'autre part, une présence virtuelle de la mort qui fait de certaines formes de jeu une forme de jugement de Dieu plus ou moins dérivé. Ça peut être sur des animaux, ça peut être sur l'argent qui représente le joueur sur le tapis de la roulette, mais probablement c'est un dérivé historique des jeux du cirque qui eux-mêmes étaient probablement un progrès par rapport aux massacres et aux guerres.
Mais par rapport aux espaces de jeu, donc, vous mettez en valeur, Thomas, les différences entre des sociabilités qui seraient des sociabilités de jeu avec ces pseudo-amis, ces gens qu'on retrouve, et puis des sociabilités par ailleurs. Donc, on a vraiment l'impression, quand on vous entend, et j'aimerais bien vous entendre là-dessus aussi, est-ce qu'on a vraiment cette idée du jeu qui est séparé de la vie, qui est un espace en soi avec ses règles, ses sociabilités, est-ce qu'on retrouve ça à Haïti ?
Alors d'abord, avant de répondre à la question, mais on peut faire le lien, sur cette mise en abîme un peu du rapport à la mort aussi dans l'arène et de l'affrontement symbolique, d'abord la façon dont on dit le coq, enfin en créole, et c'est exactement pareil au Timor, c'est le sexe masculin. Donc la métaphore virile, elle est absolument nette, et mon coq va battre le tien, c'est absolument transparent. Et donc il y a tout un jeu autour de cette virilité, et c'est complètement, mais dans tous les pays où les combats de coq existent, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, très très fort. Et sur le côté jugement, au Timor, quand on discute avec les anciens, quand on leur demande mais d'où ça vient le combat de coq, ils disent bah, avant c'est comme ça qu'on rendait la justice. C'est-à-dire qu'on faisait battre deux coqs, et puis le coq de celui qui gagnait, bah, c'était lui qui avait raison dans leur affrontement, quel que soit le thème. Donc c'est totalement dans cet ordre-là. Alors après, sur le rapport entre la sociabilité ou individualité et le glissement de l'un à l'autre, moi j'ai l'impression qu'avec ce que vous expliquez sur la Française des Jeux qui essaie de développer du jeu, enfin pas participatif, mais collaboratif, où on est plusieurs à partager sa grille, que le cheminement est une tentative de retour à ce qui existe précisément au Timor ou en Haïti, où on ne joue que ensemble. C'est-à-dire que pour l'instant, que ce soit les combats de coq, comme on a pu le voir, c'est quand même avant tout, certes, on parie, mais on retrouve des gens. Et dans tout ce qui est autre jeu d'argent, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, la loterie aussi, et ça c'est pareil au Timor, on ne choisit jamais ses numéros tout seul. On les choisit en discutant avec les gens autour de soi, et ça donne lieu à des conversations interminables pour savoir si oui ou non on a raison de jouer ceci ou cela. Et ce qui est en train de s'implanter un peu, alors c'est le cas du Timor, parce qu'il y a beaucoup plus le Timor oriental, oui pardon, c'est un tout petit pays, enfin pas si petit que ça, mais 15 000 km², qui est né en 2002, même si la nation timoraise est plus ancienne, mais en gros il a donc une dizaine d'années d'existence, et qui est entre l'Australie et l'Indonésie. Donc c'est aux antipodes par rapport à l'espace caribéen. Et il y a du pétrole. Donc du coup, le niveau économique du pays est en train de se développer de façon assez importante, donc il y a de l'argent. Et tout ça pour dire que, qui va avec l'argent, il y a de nouvelles formes de jeux qui sont en train d'arriver, et ce qu'on essaie de vendre aux Timorais, c'est des jeux à gratter. Alors ça a très bien marché dans les premiers mois, parce que tiens, c'est nouveau, et puis après, au bout d'un moment, les gens se sont dit, mais on ne peut pas gratter à plusieurs. Donc ça ne fonctionne pas, en fait. Et donc là, ils essaient toujours à partir du jeu à gratter d'inventer d'autres formes de jouer le jeu à gratter pour que ça devienne participatif ou collaboratif, parce que les gens sont habitués à jouer précisément ensemble. Alors peut-être qu'ils y arriveront, les jeux en ligne commencent à arriver, les paris en ligne commencent à se développer, mais là c'est pareil, pour l'instant quand on parie en ligne sur est-ce que la France va battre l'Angleterre en tournoi de rugby, voilà, parce qu'on peut jouer à ça, c'est-à-dire y compris au Timor, on peut parier sur les courses les courses de chiens dont on parlait tout à l'heure, et peut-être qu'un jour on pourra même parier sur, je sais pas moi, les combats de cochons en bannière de Bigorre ou que sais-je, tellement c'est connecté de partout sur la planète, en fait c'est ça qui est intéressant, mais toujours c'est dans le collectif qu'on essaie de reconstruire un peu ici, mais pour des raisons peut-être financières plus que pour des raisons de
société. Oui, ben, je pense que c'est l'esprit un peu sympathique du bingo qui essaie d'être récupéré par la Française des Jeux, sans doute quelque chose de cet ordre-là, un jeu qui serait pas parce que ce qui revient aussi souvent chez les joueurs, c'est le côté on donne notre argent à l'État, etc. Il y a ce côté moins sympathique d'un jeu qui serait organisé entre les joueurs, comme un loto de village ou un bingo, ce genre de choses.
Oui, juste une remarque pour le sociologue sur les lieux de jeu. Une approche sociologique était celle de Goffman, était aussi d'essayer de repérer les rôles sociaux que se donnaient les joueurs dans les lieux de jeu et qui étaient en général très différents de ceux qu'ils avaient dans le reste de l'existence. Ce qui fait l'intérêt du jeu, indépendamment de tout calcul économique, et une des raisons pour lesquelles les gens acceptent de perdre de l'argent, c'est que dans le lieu de jeu, ils peuvent devenir quelqu'un d'autre, se transformer en un autre personnage que ce qu'ils sont vraiment dans la vie. On peut être chômeur, RMiste, balayeur dans la vie, et dans la salle PMU ou dans le casino, on va devenir le joueur implacable, le bon perdant, le calculateur, le spécialiste, etc. Exactement. Donc ça permet une autre forme d'image de soi, d'une certaine manière.
Il y a une mise en scène de soi dans le jeu, et en particulier dans la prise de risque. La prise de risque confronte à un certain nombre de choses. Alors vous parliez des conduites en alix, c'est vrai quand on joue à un jeu d'argent, on se soumet au hasard. Mais également, il y a un jeu aussi sur les limites, sur le côté essayer de contrôler l'issue du jeu, de se montrer particulièrement fort dans la prédiction. Et ça, on va retrouver ce genre de profil dans le joueur de poker, dans celui qui s'adonne à des paris hippiques ou des paris sportifs. C'est vraiment ce côté se mettre en scène en tant que comme une sorte d'entrepreneur, quoi, finalement, de celui qui va être capable de coloniser le futur, de prédire ce qui va se passer, et puis d'encaisser les défaites. Effectivement, alors il y a le côté vraiment vertu virile, comme vous disiez. C'est pas anodin que le coq s'appelle comme ça. De la même façon, il y a ce côté dans le jeu, encaisser la défaite, mais montrer même une absence d'émotion en cas de victoire, ce genre de choses, qui est intéressant.
Mais alors, du coup, est-ce qu'on peut retrouver, au-delà, on voit de cultures de jeu qui peuvent être différentes, hein, d'un espace géographique à l'autre, est-ce qu'on peut retrouver des invariants dans la pratique de jeu sur les façons de croire, sur les martingales, sur tous les outils et les dispositions que les joueurs ont quand ils s'adonnent à cette pratique. Est-ce qu'on pourrait parler d'invariants ou non ?
Moi, je pense qu'il y a des invariants, c'est les biais cognitifs. Les psychologues cognitifs parlent de ces invariants mentaux, en fait, qui sont tout simplement la façon qu'a l'être humain d'appréhender le hasard, qui est toujours d'une certaine façon biaisé, parce que le hasard, c'est un mécanisme complexe, et que en fait on est en quelque sorte conditionné à trouver des causalités, identifier des causalités, parce qu'en permanence on essaie de savoir qu'est-ce qui a causé quoi. Et bien souvent on a du mal à appréhender le hasard dans sa logique, qui peut paraître un peu absurde. Alors, et ça se manifeste vraiment très concrètement dans les jeux d'argent. Pour vous prendre simplement un exemple, il y a cette question de l'indépendance des tours, c'est-à-dire que si vous lancez un dé, et chaque tour de dé sera indépendant du précédent. Jusque-là, ça paraît à peu près logique. Simplement, si le dé est tombé, si le dé tombe, je ne sais pas, six fois de suite sur le chiffre 2, ça ne changera. Il a autant de chances de tomber à nouveau sur le 2 que de tomber sur une autre face. Donc, et ça, c'est difficile parfois. Ça se manifeste dans le jeu. Par exemple, quand vous allez dans un casino, à une table de roulette, vous allez avoir affiché les derniers chiffres qui sont tombés. Ce qui évidemment n'apporte strictement aucune information pertinente pour faire son pari, mais qui va en réalité être affiché parce que le casino sait que ça va entraîner chez le joueur, ça va renforcer l'intérêt ludique, ça va entraîner cette illusion qu'on peut exercer une prédiction. Et c'est la même chose avec la Française des Jeux. Si vous allez sur le site de la Française des Jeux, il y a des tonnes de sites qui répertorient ça. Vous avez des données que vous pouvez compiler sur des années sur les chiffres qui sont tombés. Et il y a des sites qui cherchent à vous dire « Alors le 7 n'est pas tombé, est tombé deux fois au cours des dernières années, alors à ce moment-là, il faut jouer sur tel chiffre, etc. » Mais ça, c'est un invariant mental, mais qui ensuite va s'hybrider selon les contextes culturels. Ça peut prendre la forme parfois de croyances superstitieuses, et là, les croyances superstitieuses ne seront pas les mêmes d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre. Ce ne sera pas la même chose. Mais d'une façon générale, on retrouve ce type de volonté de prédire, y compris parfois de façon clairement non pertinente. Mais finalement, moi, je pense qu'on peut appeler ces croyances superstitieuses, la plupart du temps, des demi-croyances. C'est pas des croyances totales dans le sens où c'est pas des croyances dans lesquelles le joueur a une conviction absolue. Bien souvent, quand on va interpréter ses rêves ou jouer le vendredi 13 ou ce genre de choses, on y croit à moitié. En réalité, on le fait parce qu'il n'y a pas vraiment de coût à le faire. Ça renforce même l'intérêt du jeu. Il y a un côté un peu ludique et même y compris quelque chose de l'ordre de la sociabilité, parce qu'on va jouer le vendredi 13. « Ah, c'est ton jour de chance, on en parle, on en rit, sans forcément y croire réellement. »
Oui, juste un mot là-dessus. Donc les croyances erronées, les illusions de contrôle, ça a été très mis en avant dans la littérature psychologisante de ces dernières années, et ça passe pour l'alpha et l'oméga du jeu excessif. Il faudrait apprendre aux joueurs à être des individus économiquement rationnels pour qu'ils guérissent. Or, il est probable que l'intérêt majeur du jeu, c'est précisément pendant un moment d'arrêter d'être des individus économiquement rationnels. Et s'il y a un invariant, c'est probablement parce qu'on le recherche, c'est-à-dire que tout ce dont vous parlez, les lois du hasard, le fait que le hasard, c'est des probabilités, c'est quelque chose de relativement récent dans l'histoire. C'est Pascal, au XVIIe siècle, avec Fermat, qui pose les bases du calcul des probabilités. Jérôme Cardan, un siècle avant, avait eu des intuitions qui en étaient proches. Mais jusque-là, il y avait un relatif consensus pour penser que ce qu'on appelle le hasard, c'était la volonté des puissances supérieures ou de Dieu. Donc, les théologiens se sont battus pendant des siècles pour interdire le jeu parce que jouer, c'était une manière illicite d'interroger Dieu. Dieu est infaillible, il ne peut pas se tromper. Chaque dé qui roule à la surface de la Terre, c'est une question qui lui est posée. Comme il ne peut pas se tromper, il est obligé de répondre juste. Le standard de Dieu est saturé, donc il faut interdire le jeu qui fatigue Dieu. C'était ça. Et je pense que c'est pour retrouver ce rapport un peu magique aux puissances supérieures, à la chance, au destin, qu'on va s'enfermer dans ces lieux de jeu où la mort est convoquée, parce que ça permet magiquement de s'imaginer qu'on met de son côté un destin dont ça nous fait très peur de savoir qu'on n'en est pas maître.
Et on l'a vu dans l'extrait tout à l'heure sur les combats de coqs. Les coqs, on va vérifier les preuves, c'est-à-dire on va vérifier s'ils n'ont pas des piques ou si la magie noire a pas, enfin la magie noire, le vaudou en fait, n'est pas intervenu là-dedans. C'est-à-dire que c'est pas simplement deux coqs qui se battent, mais il y a tout un arsenal qui a été mis en place magique précisément et qui se bat aussi, c'est-à-dire de force à force. Tout ça, ça intervient, et parfois ce sont des zombies de coq qui se battent. Ce n'est pas vraiment le coq, mais c'est son esprit qui se bat. Et pour revenir sur la question de la martingale, donc on va, si vous voulez bien montrer un deuxième extrait, on va repartir en Haïti aux Abricots, dans la même petite commune. Et cette fois-ci, ce ne sera plus la gaguerre, c'est-à-dire c'est plus les combats de coq, mais c'est la loterie. C'est autour de la borlette, c'est-à-dire la loterie haïtienne. Et vous allez voir que cette loterie, elle est à la fois un jeu, quelque chose, bon, vous allez voir où les gens s'amusent, mais on commence à basculer vers un jeu addictif peut-être, ou en tout cas nécessaire. C'est-à-dire que c'est une activité économique qui est très forte, et parce que c'est une activité économique qui est très forte, elle a ses règles, elle a ses lois, et il y a même une espèce de martingale commune à tout le monde, avec un système de décryptage du réel, qui est bien connu de tous, et qui s'appelle le tchala. Donc on repart quelques minutes, pareil, deux ou trois minutes.
Jean Charnet, moi c'est activité PAM, c'est moi c'est Dieu Té, Bolet Gino, Abricot. Bon, moi son bel génie pour moi, parce qu'elle crée un pile d'activité dans la commune, dans la section, dans l'habitation. Il y a un peu d'emploi. Mouvement comme la cible dans la section.
C'est quoi? Ça n'existe pas en français, le mot borlette. Je vous l'avais dit, ça n'existe pas. C'est un jeu. On appelle ça communément borlette. C'est un jeu de loterie associé qui avait son origine à Cuba, je crois. C'est à Cuba que ça a commencé. Ensuite, la boleta. Pour tout achat d'une gourde, pour le joueur mise une gourde, il a, pour le premier lot, c'est 50 gourdes. Pour le deuxième lot, c'est 20 gourdes. Et pour le troisième lot, c'est 10 gourdes. Les joueurs de borlette ont deux méthodes. Le rêve Le rêve joue un rôle capital dans la borlette. Le rêve, par exemple, si la personne rêve, par exemple, je ne sais pas, de la banane ou encore un cabri comme ça, ça veut dire, la personne connaît le numéro qu'elle va jouer pour immédiatement pour ça.
10-0-1. Bon, son boule bolette qui est lié dans son boule là. Ça dépend de ce que vous faites. L'oreille est péni. L'oreille est petit cheval. Les mouvés défendent. Les mouvés vont m'assister. Ils vont 66.
Pour savoir quel numéro ça veut dire que qu'il va jouer, il consulte le tchala. C'est une sorte de bréviaire où il y a une connotation numérique pour chaque chose. Ensuite, l'autre méthode, ce sont les statistiques, n'est-ce pas? Les statistiques comme ça, les calculs, il y a des calculs mathématiques, les séquences. Nous sommes dans un pays à faible revenu, tout le monde veut miser sur la borlette pour avoir de l'argent.
Oui, donc c'est cette conclusion. C'est pourquoi est-ce que les gens jouent ? Parce que c'est pour pouvoir avoir de l'argent. Et si ça s'appelle des banques, vous avez vu, c'est la Juno Bank, c'est parce que c'est le seul moyen d'avoir de l'argent. Donc là, on bascule vers quelque chose d'un peu moins marrant, entre guillemets. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une espèce de nécessité de jouer. Et comme dit M. Chavenet, le directeur, il dit, il n'y a pas d'activité, en fait. C'est-à-dire que l'agriculture, pas grand-chose. L'industrie, pas grand-chose. Et donc là, il y a une espèce de ressource ex nihilo qui est créée par la magie, si on peut dire, du jeu. C'est-à-dire créer, faire de l'argent à partir de rien, en fait. À partir de miser sur des numéros. Et ce système du tchala, donc, on le voit pas très bien dans l'extrait du film, encore une fois, qui est réalisé par Marie Baudin, une géographe. Et on le voit, le texte. En fait, vous avez tout un bréviaire dont l'origine est assez difficile à retracer, mais où c'est codifié, c'est-à-dire le coq, c'est le numéro 11, etc. Ce qu'on retrouve aussi au Timor, pour le coup, alors ça ne s'appelle pas le tchala, mais vous avez exactement le même système de correspondance. Alors, ça aurait été trop beau que ce soit les mêmes correspondances, c'est-à-dire qu'on a les mêmes numérotations partout. Mais ce tchala, pour dire à quel point ça devient structurel, il existe sur les téléphonies mobiles en Haïti un service tchala. C'est-à-dire que si vous envoyez, mettons, coq par SMS, on vous répond 11. C'est-à-dire que c'est le chiffre qu'il faut que vous jouiez si vous avez rêvé d'un coq. Ce que ça signifie aussi, c'est si on met en place un service tchala sur la téléphonie mobile, ça veut dire qu'il y a tellement de gens qui jouent et qui sont susceptibles d'utiliser ce décrypteur de rêve, qui est pour le coup une martingale commune à tout le monde, que c'est vraiment structurant dans l'économie du pays. Et en gros, en Haïti, on estime que c'est le premier employeur du pays, c'est la borlette. Donc je ne sais plus quelle était la question de départ, mais du coup, voilà. Oui, sur le côté martingale, c'était ça. Oui.
D'accord, mais j'aimerais bien qu'on aborde juste une question qui est évidemment connexe. Là, on a parlé des espaces du jeu, on a parlé des sociabilités, des invariants psychologiques, etc. Et j'aimerais maintenant qu'on joue, qu'on parle des joueurs, en fait. Bon, on va jouer, tiens, on va faire une bonne partie de poker. Non, c'est sur les joueurs. Vous disiez que c'est une économie qui est très pauvre et c'est une façon de créer ex nihilo des flux d'argent. De revenus au sein du pays.
C'est pas possible. Non. Mais ça fait tourner de l'argent, mais ça le fabrique pas.
Non, ça fait tourner. Oui, ça le fait tourner. Et ce que vous avez pas dit, c'est que les tirages, c'est pas des tirages qui sont, enfin, les tirages de cette loterie-là ont lieu aux États-Unis, c'est ça?
Oui. Alors du coup, ça connecte, c'est-à-dire. Les jeux connectent en Haïti, au Timor, c'est exactement pareil. Alors, rapidement sur les coqs combattants, on a dit tout à l'heure, les meilleurs coqs sont dominicains, mais les meilleurs sont encore portoricains ou encore plus loin. Donc, vous avez en fait des avions avec des coqs combattants qui se déplacent dans la Caraïbe presque quotidiennement, donc qui connectent les lieux d'une façon un petit peu improbable. Et c'est tout à fait pareil au Timor, où les meilleurs coqs viennent via Singapour, de Thaïlande ou des Philippines, etc. Pour ce qui est des jeux de loterie, là, en fait, les tirages de la borlette, où en gros vous pariez, vous avez beaucoup plus de chances de gagner qu'à la loterie, enfin qu'au loto hein, en France, mais on peut gagner des sommes qui sont beaucoup moins importantes. Mais le tirage, il est fait à New York, c'est-à-dire que comme on n'a pas confiance, il existait à un moment donné une loterie haïtienne, une loterie qui était tirée à Port-au-Prince. Les gens ne faisaient pas confiance du tout au tirage. On disait ça peut être truqué ou alors c'est le gouvernement qui s'en met plein les poches, etc. Là, le fait que ce soit externalisé et que ce soit objectivé, puisque à New York ils ont leur loterie et donc en gros ils savent pas ce qui se passe dans la commune des abricots au fin fond de la grande danse du sud-est du pays, donc ça rassure la population en disant au moins comme ça on est sûr. Donc le tirage du soir il est calqué sur le New York et sur celui de midi sur la République dominicaine. Ce que ça veut dire aussi c'est que deux fois par jour les abricots sont connectés avec Santo Domingo ou avec New York pour savoir quel a été le résultat du tirage. Et du côté du Timor, c'est pareil avec la loterie de Singapour. Donc il y a une façon d'externaliser parce qu'on ne fait pas confiance. Et oui, évidemment, l'argent, il n'est pas créé, c'est sûr. Mais il circule. Et comme dit, en fait, ce monsieur, il a envie quand même. C'est-à-dire que ça crée des emplois. Ça crée des emplois. Il y a à peu près 100 000 emplois dans le pays qui sont liés. Alors c'est terrible de se dire que ces emplois, ils ne sont précisément pas ailleurs et que l'argent n'est pas tout à fait redistribué. Et parce que je terminerai là-dessus, l'Association nationale des tenanciers de Borlette, dont vous avez vu tout à l'heure le vice-président, c'est, qui théoriquement est une instance de régulation et qui en fait, c'est simplement le syndicat des gros tenanciers de Borlette. Donc ça, il n'y a aucun argent de tout ça qui repart dans les caisses de l'État et qui pourrait être redistribué après. Donc ça tourne, mais ça tourne sans se transformer jamais en autre chose, disons.
Oui, c'est ça le problème. Le jeu, c'est la définition classique de Kaiwa, est improductif parce qu'il n'est pas productif en soi de richesse. C'est un déplacement d'argent non productif. Ça peut permettre de ramener de l'argent dans des lieux qui ont peu d'activité, à condition que ce soit les étrangers qui amènent leur argent. C'est ce qui a fait la fortune de Las Vegas et c'est ce que font les Nord-Américains dans les réserves indiennes en leur permettant d'ouvrir des casinos qui sont interdits aux autres. C'est ce qui a fait la fortune de Monaco quand le jeu était interdit en France et en Italie. Il y avait un endroit où les Français et les Italiens pouvaient aller jouer qui était Monaco. Mais c'est une circulation d'argent dont certains bénéficient plus que d'autres.
Oui, c'est ça, c'est quand même très inégalitaire. Donc il y a les chefs, les tenanciers de Borlette qui ont capté une partie de ces sommes. Mais les joueurs, et c'est là où je veux en venir, les joueurs moyens, en fait, et j'ai l'impression qu'on retrouve ça en France et un peu partout, est-ce que les joueurs plus pauvres jouent plus d'argent au jeu d'argent?
En fait, moi je...
Plus...
Disons que si on parle des jeux d'argent et de l'argent que ça peut générer pour l'État en particulier. En France, les jeux d'argent sont taxés. L'État, on a parlé de la Française des Jeux, organise un monopole sur les loteries, donc organise les jeux. Et effectivement, une partie très importante, alors qui est variable selon les jeux, mais une partie très importante qui peut aller jusqu'à 50% des mises est récupérée par les... de l'argent total est récupéré par la
Française des jeux.
Ça dépend des jeux. Mais c'est une somme importante. Et en fait, on peut parler d'impôts régressifs. Moi, je pense qu'on peut employer le terme, puisque en réalité, quand on regarde le profil des joueurs et comparer donc, la part de leurs revenus qui est consacrée au jeu, elle est plus importante en fait chez les personnes qui gagnent moins d'argent. Donc c'est un impôt régressif. Donc même s'il est redistribué, à ce moment-là on peut dire oui c'est redistribué, ça va permettre de financer telle ou telle politique. Encore que là, enfin on va pas s'attarder sur les détails, sur la façon dont c'est contrôlé, etc. Cet argent, cette cagnotte.
On y reviendra peut-être à la fin.
On va y revenir. Mais voilà, donc en fait c'est un impôt régressif, contrairement à d'autres formes d'impôts. En général l'impôt est progressif. Un bon impôt c'est un impôt qui est progressif, qui taxe davantage ceux qui ont davantage. Là, en l'occurrence, c'est l'inverse.
Est-ce que vous retrouvez...
Oui, non, c'est une leçon de la dernière enquête épidémiologique donc de 2014 par rapport à celle de 2010. On s'aperçoit que tout le monde joue. En gros, 74% des Français ont joué de l'argent au moins une fois dans leur vie, 56% au moins une fois dans l'année. Et autant les femmes que les hommes, autant les riches que les pauvres, tout le monde joue. Mais... en proportion de ses revenus, évidemment, moins les gens sont riches, plus ils jouent une proportion importante, jusqu'à ceux qui ne devraient pas se permettre. C'est-à-dire qu'en gros, le jeu devrait être intégré dans un budget loisir. Il est évident qu'un certain nombre de personnes ont un budget loisir qui devrait être égal à zéro, et c'est eux les premiers qui sont les victimes du jeu excessif qui se ruine très très rapidement parce qu'ils ont très très peu de moyens. Et si le chiffre de joueurs a augmenté entre 2010 et 2014, c'est parce qu'on avait fait l'erreur en 2010 de mettre une barrière pour faire passer les tests de jeu excessif. Cette barrière, c'était les gens qui jouaient plus de 500 euros par an ou qui jouaient plus de 50 fois par an. Et on s'aperçoit que si le nombre de joueurs à problème a augmenté en 2014, c'est probablement parce que là, on n'a pas mis cette barrière. Et que donc, il y a des gens qui jouent moins de 500 euros par an et qui ont des gros problèmes de jeu.
Absolument. Et du coup, quand les plus pauvres jouent de cette façon, peut-être un peu, je ne sais pas si on peut dire incontrôlée, c'est ce que vous expliquez aussi, c'est un peu faute de mieux, quoi. C'est un espoir dans une situation économique qui est un peu déplorable. Et Thomas, c'est aussi ce que vous avez pu montrer. Enfin, comment eux justifient cette pratique-là, au-delà d'une pratique culturelle qui est assez générale?
Déjà, les combats de coqs et la borlette, c'est très différent. C'est-à-dire, les combats de coqs sont beaucoup plus anciens, c'est beaucoup plus rural, même s'il y a des gaguères aussi dans les villes. C'est celle de la bourgeoisie où on joue des très grosses sommes. Mais la gaguère est beaucoup plus. La borlette est beaucoup plus récente. Et au moment du séisme, c'est-à-dire juste après 2010, il y a eu encore plus de borlettes qui se sont développées dans le pays. C'est-à-dire que le contre-coup est. Et une des contre-réactions a été de s'en remettre encore plus à ce système-là de borlette. Pas mal de joueurs effectivement disent bah, de toute façon je sais très bien que j'ai plus de chances de perdre que de gagner et les sommes qu'on perd et les sommes qu'on gagne ne sont pas énormes. Encore une fois là on n'est pas du tout sur des sommes du type loto comme notre loto en France, mais ils disent de toute façon il n'y a pas de banque, il n'y a pas de système bancaire, il n'y a pas de système où on peut mettre de l'argent de côté, et puis là on n'a pas de budget jeu ou de budget loisir ou de budget nourriture, enfin en gros on a un peu d'argent, on va le manger. Ou tiens, si j'ai assez pour manger, bah, aller jouer les 5 gourdes qui restent, voilà, ça peut me donner l'opportunité d'avoir un pécule qui peut arriver, qui peut permettre de faire autre chose. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans des systèmes économiques où on ne voit pas plus loin que le bout du lendemain, pratiquement. Pour les 3/4 des Haïtiens, c'est vraiment ça. Au Timor, c'est différent parce que précisément, comme le pays est en train de connaître un développement économique assez spectaculaire, même si on a à l'heure actuelle 75% de la population active qui travaille dans l'agriculture, donc avec un ancrage rural et donc les combats de coqs, pareil, très présents dans tous ces espaces ruraux, mais là, la visibilité au lendemain, d'abord il y a des salaires qui sont mensualisés, les anciens combattants touchent des soldes, enfin des compensations tous les mois, enfin il y a quelque chose qui est beaucoup plus déjà, je dis déjà parce que le pays est très récent, qui fait qu'on voit plus loin. Donc en gros la loterie de Singapour là-bas, elle a moins cette dimension jeu de désespéré. Jeu de désespéré, c'est un peu brutal de dire ça, mais que ce n'est le cas en Haïti. Donc c'est une autre façon de répondre à la question posée, c'est-à-dire en gros, est-ce que plus on est pauvre, plus on joue? Je dirais oui, en fait, du coup.
Je pense que c'est ce qu'on constate en France également, parce que finalement, les loteries, les jeux d'argent, qu'est-ce que c'est? C'est un mode alternatif d'allocation de ressources, mais qui est particulièrement défavorable. Donc c'est vrai qu'on a tendance à l'envisager comme un loisir, etc. Mais c'est aussi une forme d'investissement, une forme d'investissement qui est particulièrement peu rentable. Et pourquoi on va s'orienter vers cette forme de loisir ou cette forme d'investissement? Parce qu'on a d'autant plus qu'on a de faibles ressources et que pour différentes raisons, nos perspectives économiques sont moroses, parce que on ne perçoit pas qu'on va pouvoir par son travail éventuellement s'enrichir ou s'élever socialement éventuellement, parce qu'on a du mal à finir les fins de mois. Et quand on regarde les chiffres, quand on a du mal à finir les fins de mois, on va consacrer une part plus importante de son budget. Donc comme vous disiez, alors qu'on ne devrait peut-être pas le faire, en réalité, on va peut-être consacrer son budget loisir à ça, parce qu'on en attend une solution désespérée. Et même en connaissant les probabilités, même en ayant conscience du fait qu'on a peu de chances de gagner, ça reste une fenêtre ouverte. Une espèce d'espoir un peu clairement illusoire, mais qui va être les gens vont tenter leur chance malgré tout. Après, il peut y avoir différentes modalités, parce que on peut là où ça devient dangereux, c'est non pas quand on joue de façon régulière pour espérer ce gros lot qui va nous changer la vie, qui est un peu la pratique majoritaire de celui qui joue au loto de façon ponctuelle. C'est là où ça devient difficile, c'est quand on espère boucler la fin de mois, on espère pouvoir financer des dépenses importantes par le jeu. Et à ce moment-là, on s'expose à des difficultés encore plus grandes. Et puis ensuite, on a des mécanismes qui se mettent en place où le jeu dégrade les conditions d'existence, dégrade les finances de la personne. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On rejoue davantage en espérant solutionner ce problème. Et là encore, il y a de bonnes raisons de le faire, parce que finalement, est-ce qu'on a, par le travail ou par d'autres moyens, on n'a pas les chances de le faire. Donc c'est un peu c'est ce type de mécanisme de spirale qui peut se mettre en place et qui fait que, effectivement, plus on est pauvre, plus le jeu est attractif.
Et tout à l'heure, vous évoquiez donc cette enquête de c'est l'OFDT.
C'est l'Observatoire des Jeux, la dernière. La première, c'était l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Mais en 2014, c'est l'Observatoire des Jeux maintenant et qui a fait cette enquête avec l'INPES, avec l'Institut national de promotion et d'éducation à la santé.
Et vous avez mentionné qu'autant de femmes que d'hommes jouaient, ouais. que toutes les classes sociales jouaient. Mais ma question est... À quelle question on répond quand on obtient ce résultat, c'est-à-dire jouer une fois dans l'année, bon.
Ouais.
Est-ce qu'on a des différences hommes-femmes, d'âge, etc., de classe ouais. sociale, quand on va dans des montants joués plus importants, dans des fréquences plus importantes ?
Oui, alors, sur les montants, c'est compliqué parce que ça dépend du type de jeu. C'est-à-dire que les montants les plus élevés dans les jeux, c'est le poker, c'est là que les gens vont miser le plus. Après, il va y avoir les pronostics sportifs, et c'est évident qu'à l'euro million ou au loto, les gens dépensent beaucoup moins dans l'année. La différence entre femmes et hommes, elle tient au type de jeu pratiqué. Les femmes jouent beaucoup plus aux jeux de hasard pur. Alors, bien sûr, tout le monde joue à l'euro million, tout le monde joue au loto. Les femmes jouent beaucoup aux machines à sous, qui sont des jeux de hasard pur, alors que ce sont des hommes qui jouent au pronostic hippique, au pronostic sportif et au poker. C'est essentiellement. Et ce sont ces trois types de jeux qui sont, comment on pourrait dire, emblématiques et en cause dans le jeu excessif de prise de risque, dans ce qui ressemble le plus à des jeux toxicomaniaques. Donc chez les joueurs excessifs, on a beaucoup plus d'hommes que de femmes, comme on a beaucoup plus de toxicomanes hommes que de toxicomanes femmes. Mais les machines à sous sont un jeu extrêmement addictif et on voit un certain nombre de femmes qui commencent à arriver en nombre dans les consultations.
Et est-ce que vous pouvez expliquer les mécanismes, parce que là on parlait des joueurs, de mécanismes psychologiques qui pouvaient produire de l'excès peut-être plus que...
Oui.
Mais il y a aussi les types de jeux dont vous venez de parler.
Voilà. En gros, si on veut séparer les deux grands types de jeux, il y a des jeux de rêve qui sont pratiquement pas addictifs, c'est l'euro million. Là, le but du jeu, c'est le rêve qu'on va faire en attendant le résultat. Et plus le résultat est loin, plus finalement l'investissement est rentable, parce qu'on va rêver longtemps. Donc si on attend une semaine avant d'avoir le résultat, pendant une semaine, on va pouvoir se faire le même Spielberg, tout ce que je ferai quand je serai milliardaire, comment j'irai dire merde à mon patron, comment je donnerai de l'argent aux gens que j'aime bien, comment je n'en donnerai pas à ceux que j'aime pas, etc. Et puis, une fois qu'on a bien rêvé, le jeu a fait son travail, et beaucoup de gens oublient même d'aller regarder les résultats. C'est pour ça que certains gagnants de la Française des Jeux oublient de se faire connaître. Parce qu'ils savent tellement qu'ils ont peu de chances de gagner, qu'ils n'ont même pas une chance sur 110 millions de gagner le gros lot de l'euro million. Ce n'est pas raisonnable du tout. Donc ça, c'est les jeux de rêve. Ils ne sont pas addictifs. L'autre type de jeu, c'est les jeux de sensation. C'est des jeux où, notamment par leur fréquence, on n'a même pas le temps de penser. On a matériellement pas le temps de rêver, d'imaginer quoi que ce soit. On est toujours dans le haut, le bas, on perd, on gagne, on perd, on gagne. Ça, c'est la machine à sous. Ou les courses de chevaux, ou les pronostics, où là, on est happé par l'action, on attend de voir ce qui se passe, et on est là pour la sensation, pour l'adrénaline. Pas du tout pour rêver, quoi que ce soit. Et ce sont ces jeux-là qui sont les jeux addictifs. C'est les machines à sous, c'était le rapido de la Française des Jeux, c'est les courses par courses du PMU, et c'est les pronostics sportifs et le poker.
Et c'est pourtant les jeux qui ont été ouverts à la concurrence en 2010 ?
C'est les jeux qui ont été ouverts à la concurrence en ligne en 2010, mais qui existaient déjà. C'est-à-dire que le but de la loi, d'une certaine manière, était de canaliser et de toucher un peu d'argent éventuellement pour l'État sur des déplacements d'argent qui jusque-là lui échappaient. C'est-à-dire que les jeux en ligne existaient avant la loi, mais ils étaient aussi illégaux qu'ils soient, les gens jouaient déjà. Il y a eu peu d'augmentation. Alors le résultat important de l'enquête de 2014 par rapport à 2010, c'est que les jeux en ligne ont relativement peu augmenté. Il y a 3,7% de la population qui jouait en ligne en 2010. On est passé à 4,1%. C'est une augmentation faible. Alors qu'on avait 46% de joueurs dans l'année, on passe à 56% de joueurs dans l'année. Donc il y a eu une augmentation très importante du jeu, mais qui touche surtout le jeu en dur, alors que la loi concernait uniquement certains jeux en ligne. Autrement dit, les opérateurs, et particulièrement la Française des Jeux, qui est le seul opérateur de pronostics sportifs en dur, a grandement bénéficié de la publicité faite par les opérateurs en ligne pendant les grandes manifestations sportives comme la Coupe du Monde de football.
Bon, pour ajouter, effectivement, pour compléter ce que vous disiez, il y a quand même eu la Française des Jeux a été très active sur au niveau commercial en créant régulièrement de nouveaux jeux particulièrement efficaces et puis en étant très présente médiatiquement, notamment par la création d'un service des grands gagnants qui a pu fournir des publicités régulières et gratuites sur les grands médias grâce et puis et accessoirement créer rendre tangibles les personnes des gagnants. Puisque de la sorte, on avait ces personnes qui étaient présentées, invitées, filmées dans leur nouvelle richesse et qui étaient en fait les gens comme vous et moi, auxquels on pouvait s'identifier, des personnes réelles. Quoi. Voilà, pour compléter ce tableau.
Et quand on parle des excès, parce que c'est ce qu'on se disait avant de commencer la table ronde, donc les excès, il concerne très très peu un quota très faible de la population de joueurs, mais on en parle beaucoup et on en parle beaucoup depuis fin des années 90. Comment on explique vous êtes un spécialiste, vous êtes dans le champ, mais comment vous expliquez cette montée en puissance du jeu pathologique?
Des discours. Alors c'est très difficile de savoir si le jeu pathologique a augmenté. On pense que oui, et on pense que l'offre de jeu y est pour quelque chose, et on pense que la crise économique y est pour quelque chose, et on pense que le fait d'être dans une société d'hyperconsommation y est pour quelque chose. Il y a une montée de toutes les addictions qui est probablement un symptôme majeur d'une société dans laquelle le bonheur est devenu équivalent à la possession d'un certain nombre d'objets de consommation et où Dieu est devenu l'argent. Jouer avec Dieu, ça va être jouer avec l'argent. Le scandale du joueur, c'est qu'il joue avec, il joue même pas pour. D'une certaine manière, c'est en ça qu'il est choquant. Mais si on regarde l'histoire, là encore, le jeu pathologique est probablement la première addiction à avoir été décrite médicalement par un médecin en disant que c'est une maladie et qu'il faut des traitements adaptés. C'est pas un crime, c'est pas une faute morale, c'est une maladie, il faut que ce soit des médecins qui s'en occupent, il ne faut pas que ce soit des prêtres. Et ce premier texte, qui est probablement l'acte de naissance des addictions au sens où on l'entend, remonte à 1561, au XVIe siècle. En pleine Renaissance, c'est le moment où Pascasius écrit son traité sur le traitement du jeu pathologique. Alea sive de curanda in ludendi pecuniam cupiditate. Du hasard ou du traitement de la passion pour le jeu d'argent. Et ce texte est extrêmement moderne parce qu'il parle déjà de l'illusion de contrôle. Il dit déjà que le hasard, c'est que du hasard. Il est un siècle avant Pascal et il sait déjà que le hasard, c'est pas la manifestation divine. Il sait que c'est un problème mathématique. C'est un élève de Jérôme Cardan qui est le premier à avoir eu l'intuition des probabilités. Donc, c'est déjà décrit. Et il dit même, en commençant son texte, alors que ce fléau touche la jeunesse depuis la nuit des temps, depuis toujours, je m'étonne d'être le premier médecin à en parler parce que ça fait longtemps qu'on aurait dû s'occuper de ce problème. 1561. Donc, on est dans une société addictogène, on est dans une société qui produit de l'addiction, mais il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres. Et la Renaissance a été un de ces moments. C'est ça qui peut être pour nous un signe d'espoir. c'est qu'on a quantité de manifestations qui sont des signes de décadence, qui sont des signes de fin du monde, qui sont des signes de, que tout va mal. C'est la crise, c'est la crise économique, c'est la crise morale, c'est la crise politique, etc. Eh bien, c'est peut-être la fin du Moyen-Âge et peut-être qu'on va vers une nouvelle renaissance, voilà.
Ça pourrait faire une phrase de conclusion, mais ce sera une phrase de transition. Vous me donnez un peu d'espoir. J'aimerais revenir sur la situation aujourd'hui. Donc, vous l'avez dit, donc l'addiction, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Ou au moins, je ne sais pas si je vous suis complètement, vous citez cet ouvrage du XVIe siècle sur voilà, c'est un médecin hein, qui l'a écrit, mais on a quand même l'impression que c'est un problème moral avant tout. Durant tous ces siècles, qui sait qui a changé de registre, qui s'est sanitarisé, et c'est pour ça que je disais depuis 20 ans, même si effectivement les pratiques de jeu excessives, je pense qu'elles existent depuis que le jeu existe. Mais voilà, c'était pour en venir aussi à la situation actuelle, donc une sanitarisation du jeu excessif, donc pris en charge par des médecins, par des psychologues. Dans le cadre d'un marché qui est en train de s'ouvrir et d'un État, des pouvoirs publics qui a ouvert ce jeu à la concurrence il y a 5 ans. Et aujourd'hui, quel bilan on peut en faire? Alors, vous avez parlé de l'étude qui vient de sortir sur les résultats sur les joueurs pathologiques. Mais est-ce qu'on a un recul sur... Qu'est-ce que produit Internet sur les addictions au jeu ou même sur les pratiques de jeu en général, ce qu'on évoquait au début?
Juste là aussi, sur les études, on sait maintenant que les joueurs addicts et les joueurs excessifs sont beaucoup plus nombreux parmi les joueurs en ligne que parmi les joueurs en dur. Il y a 6 fois plus de joueurs addicts parmi les joueurs en ligne que parmi les joueurs en dur en pourcentage. Ça tient à 2 ordres de choses. D'abord, jouer en ligne, ça implique une sélection. Il faut s'inscrire, il faut envoyer ses papiers d'identité, et on va évidemment sélectionner les joueurs les plus intensifs, déjà les plus accros, ceux qui tiennent vraiment à jouer. Ça ne touche que 4% de la population, alors que le jeu touche tout le monde. Donc il y a un effet de sélection. Mais il y a aussi un effet d'addictivité supplémentaire dans le fait de jouer en ligne, parce qu'il y a une accessibilité absolue, on peut jouer n'importe quand, on peut jouer dans les transports, sur un téléphone portable, on peut jouer à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, on peut jouer sans aucun contrôle social, et on peut jouer à des moments où on est totalement seul, où il n'y a personne pour vous dire « attention, t'exagères, tu devrais arrêter », etc. Et surtout, on peut jouer en fumant et en buvant. Parce qu'on est chez soi, on est dans un espace privé, et on sait que la mesure la plus efficace de frein du jeu excessif a été l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Le chiffre d'affaires des casinos a monté régulièrement depuis 1997 avec l'autorisation des machines à sous, et il s'arrête de monter en 2007. Il commence à descendre en 2007. 2007, c'est l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Et c'est aussi, bien sûr, la promotion du jeu responsable et la création des débuts d'instances de régulation. Le COGER existe depuis 2006.
Ouais, pour rebondir sur ce que vous disiez, sur le qu'est-ce qui se passe quand on s'arrête pour fumer, pourquoi la cigarette, le fait d'aller prendre une pause clope, ça va interrompre la session de jeu, ça va permettre de rétablir une sorte de moment de réflexion, de cognition froide, enfin de réflexion à froid sur qu'est-ce que je suis en train de faire, est-ce que j'ai dépassé des limites que je m'étais fixées, etc. Et c'est vrai qu'en ligne, on pourrait ajouter même au fait que quand on joue en ligne, on a cette dimension de dématérialisation très forte de l'argent. On abonde son compte avec en quelques clics, et tout l'enjeu aussi d'un bon opérateur de jeu, c'est de faire disparaître en partie cette notion de l'argent, de la dématérialiser, de la rendre prêt quasiment invisible. Mais pour rebondir sur la question de l'addiction, je voulais juste revenir sur ce point avant de poursuivre, c'est que finalement on identifie effectivement une portion réduite de la population totale qui serait victime d'une maladie. Alors c'est vrai qu'il y a une forme de pathologisation comme ça de certains comportements, mais vraiment des comportements extrêmes qui relèveraient du coup de services de soins psychiatriques, qui seraient vraiment des sortes de malades qui souvent ont des comorbidités, etc. Mais du coup, ça permet d'établir une frontière très, très, très claire et nette entre d'un côté les comportements normaux, c'est-à-dire la majorité des gens, et les comportements qui relèvent du pathologique. En réalité, moi, à mon avis, ce qui apparaît quand même, c'est que, y compris chez des joueurs qui sont pas, qui ne remplissent pas tous les critères du DSM-5, de la psychiatrie, on retrouve des formes de perte de contrôle, des formes de désespoir engendré par le jeu, tout un tas de problèmes qui peuvent apparaître, des problèmes familiaux, des problèmes financiers, etc., y compris chez des gens qui ne sont pas réellement malades. Et par ailleurs, il y a beaucoup de va-et-vient entre on rentre dans la catégorie, puis ensuite on la quitte, on arrive à s'arrêter de jouer, puis ensuite on replonge, etc. Donc en réalité, le halo autour de ça, de gens pour qui le jeu est un problème, est quand même un peu plus large que ce que souvent on cite quand on dit uniquement voilà, un taux de prévalence d'1,3 en population générale. Ça paraît très peu, mais en réalité, c'est plus vaste, le problème peut être plus vaste. Et puis... alors, à mon sens, cette pathologisation, ça permet d'une certaine façon de simplifier le problème et d'une certaine façon d'identifier clairement quelle est la responsabilité pour l'État, pour les opérateurs, où est-ce qu'on doit investir l'argent. Et finalement, ça permet de, c'est un bon moyen de régulation de l'activité. C'est-à-dire qu'on va finalement dire que le jeu est une pratique naturelle, finalement, qui relève anthropologiquement de ce que fait l'homme. Donc c'est plutôt à l'État de l'organiser, parce que c'est l'État, ou en tout cas de contrôler, de réguler le marché. Mais en même temps, et globalement, ce n'est pas un problème. C'est une activité qui ne pose pas de problème. Mais il y a cette frange réduite de la population qu'il faut prendre en charge médicalement. Et à mon avis, c'est un peu ce genre de service que ça permet de rendre à n'importe quelle entreprise. Si elle se déresponsabilise d'une certaine façon en expliquant le problème ne sont pas mes produits, le problème ce sont les gens qui ont des pathologies. La preuve étant que souvent ils ont d'autres pathologies, comme ils vont fumer, ils vont avoir des problèmes d'addiction au tabac ou à l'alcool. Donc à mon avis, c'est un peu
oui,
ça.
Oui, non, mais non seulement je suis d'accord, mais je pense que c'est vrai pour toutes les addictions. C'est vrai, par exemple, pour l'obésité, dont tout le monde sait, bien évidemment, que c'est une maladie génétique, comme le disent les chercheurs sur l'obésité, qui sont sponsorisés par les grands industriels de l'agroalimentaire pour faire des recherches très pointues sur la génétique de l'obésité. Mais, curieusement, on a une maladie génétique qui évolue par épidémie, pour des raisons tout à fait étonnantes, et particulièrement lorsqu'il y a des chaînes de fast-food qui s'installent, des distributeurs de boissons sucrées et des choses comme ça. C'est-à-dire qu'une pathologie, c'est toujours une construction qu'on peut faire à partir d'une réalité complexe. Et dans cette construction, il y a des facteurs individuels, des facteurs génétiques, des facteurs psychologiques, des facteurs psychanalytiques, de l'histoire individuelle du sujet, mais il y a aussi des facteurs environnementaux. Et parmi ces facteurs environnementaux, il y a l'offre. Et c'est vrai même pour l'hypertension artérielle, parce que selon les pays, le taux de sel dans la nourriture ne sera pas le même en fonction de ce que font les industriels de l'agroalimentaire, et le taux moyen de tension artérielle ne sera pas le même en Angleterre et au Kenya, parce que les gens n'ont pas le même régime.
Mais alors, juste, on va conclure là-dessus, parce que c'est une question qui est importante, c'est... Ça laisse un peu pessimiste, parce qu'on voit que le jeu d'argent, c'est une pratique millénaire qu'on n'a jamais pu interdire, et donc on a essayé d'autoriser dans un cadre très restrictif. D'abord, on l'a prohibé, ensuite on l'a très encadré par des monopoles. Maintenant, on l'ouvre en ligne en faisant attention que certains opérateurs soient agréés, etc. Et en même temps, les problèmes persistent. Donc, je sais que Thomas, en tout cas dans votre article, qui n'est pas encore accessible, mais qui sera bientôt. La conclusion, elle est assez pessimiste, c'est qu'en fait, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire contre le désordre du jeu ?
Ouais, je pense qu'il y aurait quelques mesures à adopter qui seraient
sur
pas
l'offre,
forcément.
Sur l'offre,
ouais, plutôt, effectivement, sur l'offre. Évidemment, il y a tout ce qui concerne la prise en charge du joueur, voilà, la prévention, le développement de la recherche sur cette question, etc. Améliorer les façons de guérir les gens de leur addiction, évidemment. Mais du point de vue de l'offre, il y a des choses à faire qui ne sont pas faites. Pourquoi, par exemple, dans d'autres formes d'addiction, on interdit la publicité ? Parce qu'on a considéré que c'était un facteur important de séduction de cette addiction. Donc voilà, la cigarette, on ne fait plus de publicité pour la cigarette. En revanche, les jeux d'argent, on le fait encore et de façon très très active. Et ce qui est d'autant plus surprenant que finalement, c'est l'État qui, en l'occurrence la Française des Jeux, qui organise les pubs peut-être les plus séduisantes, avec ces longs clips publicitaires où on voit ces gens qui toujours très sympathiques, qui réussissent, voilà, qu'est-ce qu'ils font avec leur argent, etc. Donc bon, on en parle beaucoup. Ce serait déjà une première mesure qui finalement n'est même pas envisagée, et pourtant ce serait déjà un peu le béaba de la limitation finalement de cette déformation, parce que les publicités, c'est pas si anodin, parce que à la fois ça évidemment, ça donne envie de jouer, mais c'est surtout que ça a tendance aussi à déformer un peu les probabilités. Et ça, c'est un autre point qui me semble important, c'est d'éviter à tout prix, à chaque fois, de la part de l'opérateur, de lui empêcher de jouer sur nos biais cognitifs. Ça, ce serait aussi quelque chose qu'on pourrait faire. Pourquoi, par exemple, dans les points de vente, vous avez affiché les grands gagnants les dernières fois que quelqu'un a gagné. Ici, en 2012, quelqu'un a gagné 5000 euros au cash en jouant à tel jeu. Quelle information ça apporte aux joueurs ? Rien, parce que vous allez dans n'importe quel PMU, il y a les mêmes types de plaquettes. Donc, ce n'est pas que le point de vente est plus chanceux qu'un autre, etc. Mais c'est simplement que c'est pour rendre tangible et inciter à jouer. Donc, encore une fois, là, on peut se demander s'il n'y a pas tromperie volontaire de la part de l'opérateur. Évidemment qu'il y a tromperie. Et à ce moment-là, est-ce qu'on ne peut pas simplement limiter ce genre de choses sans forcément, du coup, restreindre l'offre, hein. Mais là, en l'occurrence, c'est vraiment des mesures à minima.
Oui. Non, mais moi, je serais d'accord sur le fait que la limitation de la publicité serait sûrement une des mesures les plus efficaces et les plus économiques pour tout le monde, y compris d'ailleurs pour les opérateurs qui auraient moins de frais de publicité à faire. En même temps, interdire n'est pas une solution tenable, on sait bien dans le cas du jeu. Et il faut tenir compte des progrès qui ont été faits, parce que pendant très longtemps, dans tous les pays, et en France en particulier, l'idée a prévalu que ce qui protégeait les consommateurs, c'est que le jeu soit un monopole d'État. Autrement dit, l'État étant forcément par définition bon pour tous les citoyens, il suffisait que ce soit un monopole d'État pour que le citoyen soit protégé. Or, particulièrement en situation de crise, quand l'État a besoin de recettes, tout a démontré qu'il risquait de mettre sur le marché des jeux extrêmement addictifs, dangereux, etc. On est sorti quand même un peu de ce modèle en 2010, puisqu'on a des autorités de régulation qui sont indépendantes. Et à mon avis, c'est un énorme progrès, parce qu'il y a enfin un régulateur qui peut se permettre de dire même à l'État, attention, là, vous allez trop loin. Donc, il y a quand même un progrès.
Moi, je suis un peu loin avec mes terrains lointains, mais n'empêche que sur la question du rapport, voilà, il y a pour l'instant, ni en Haïti ni au Timor, il y a vraiment de monopole de l'État. Et précisément, cet État timorais dont je parlais tout à l'heure, qui a une dizaine d'années d'existence, depuis 2008, il y a volonté de mettre en place une législation sur les jeux et un contrôle sur les jeux pour pouvoir récupérer de l'argent avec ça et pour pouvoir limiter les pratiques. Alors là, il s'agit pas, les discours sont pas du tout sur les addictions, on n'en est pas du tout là, mais en revanche, de dire plutôt, il faudrait organiser les combats de coq pour que ça ne fasse pas trop de désordre. Bon, enfin, l'idée, c'est de récupérer de l'argent, c'est tout. Et donc, la difficulté à laquelle ils se trouvent confrontés, c'est que ces combats de coqs qui ont lieu partout dans les campagnes, comment aller récupérer de l'argent de ça, c'est très difficile. Mais en revanche, et là, on disait tout à l'heure, voilà, l'État aussi, ou les États aussi, font des choix en disant on joue ou on ne joue pas. Et en gros, là, l'État timorais a décidé qu'ils vont ouvrir des casinos. Des casinos, parce qu'il y a juste à côté un État qui s'appelle l'Indonésie, où il y a beaucoup, beaucoup d'habitants qui ne peuvent pas jouer chez eux et donc qui pourront venir jouer au Timor. Donc créer ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire une enclave, mais une possibilité de jeu juste à côté d'eux, c'est un pari que va faire l'État timorais en se disant « Ok, pour notre population, on va essayer qu'ils continuent à jouer au combat de coq parce que bon, c'est pas trop méchant. » Et en revanche, les casinos ou les choses qui sont plus qui nécessite plus d'argent, ça sera réservé aux étrangers. Donc à voir si le modèle fonctionnera ou pas, mais en tout cas, on en est là.
C'est d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, sur les casinos, à Paris, on va avoir des casinos bientôt. C'est à l'étude et l'ouverture de casinos a été décidée. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les cercles de jeux ont fermé à Paris ces dernières années. C'est notamment pour ouvrir des casinos à Paris. Avec, alors, il y a des discussions, de couloirs sur la question de savoir est-ce qu'il faut créer des casinos dans le, plutôt vers les Champs-Élysées pour attirer les touristes. Effectivement, là, à ce moment-là, créer une sorte de tourisme du jeu qui éventuellement, du coup, canalise des problèmes parce que les gens repartent avec leurs valises et laissent de l'argent ici. Ou est-ce qu'il faudrait plutôt des casinos avec des machines à sous pour les populations un peu plus populaires, attirer un public populaire. Donc il y a ce genre de questions. Donc ce qui invite un peu au pessimisme sur l'évolution actuelle de l'État par rapport à ça.
Bon, alors on va clore ici cette discussion. Oui, on va vous donner la parole. On va laisser quelques temps de discussion avec la salle, si vous voulez. Alors,
bonsoir. Vous venez parler de casino. Je suis des Antilles. Et lorsqu'on a introduit les casinos à la Guadeloupe et à la Martinique, la prostitution s'est développée chez nous, aux Antilles. Et en plus, maintenant, j'aimerais également poser la question en ce qui concerne les joueurs. Parce qu'il y a des joueurs également qui jouent leurs femmes.
Alors sur la question des casinos aux Antilles, à côté de la Guadeloupe et de la Martinique, il y a Saint-Martin qui avant dépendait de la Guadeloupe et maintenant c'est une collectivité autonome. Et où précisément, il y a eu question ou pas de mettre en place des casinos, c'est-à-dire du côté Saint-Martin est coupé en deux entre une partie hollandaise et une partie française, comme vous le savez, vous êtes un voisin, et du coup du côté hollandais, il y a effectivement une quinzaine de casinos, et il y a des maisons closes, etc. et du côté français c'était pas le cas, donc il y a eu cette discussion de savoir, du coup il y a une concurrence déloyale entre un côté et l'autre, et puis finalement le fait que les gens aillent jouer et aller fréquenter les maisons closes du côté hollandais et profiter de tout ce que peut apporter en termes de gastronomie, entre guillemets, de belles enseignes qui vendent des jolis sacs du côté français, c'était plutôt du 2 en 1. Mais sur le lien entre certains types de jeux, alors par exemple les combats de coqs, on pourrait se dire, comme c'est que des hommes, il pourrait y avoir peut-être à côté, organiser de la prostitution, parce que ben là, vous avez des attroupements d'hommes réguliers. C'est pas le cas, en fait, ça ne produit pas.
Pardon, sans vous couper, mais ça c'était, disons bien, le combat de coqs, c'est culturel.
Oui.
Alors que, disons bien, là, les casinos, c'est, disons bien, également, c'était une importation.
Voilà, c'est exactement donc, ce que j'allais dire.
Bien, alors donc, c'est également une importation de vices.
Exactement.
Hein, chez nous, disons bien. Alors donc, également, parce que chez nous, à la Guadeloupe, par exemple, il y a également un catcheur et, disons bien, un ancien guerrier, disons bien, de la guerre et Deuxième Guerre mondiale. Et disons, il a gagné une femme syrienne et un entrepreneur, il a gagné la femme de l'entrepreneur, donc dans le jeu. Donc c'est pour cette raison également, et j'ai lu sur le journal également, même ici en France, dans l'étranger, il y a des joueurs qui ont joué leur femme.
Juste une remarque, là-dessus, on espère qu'on est dans un monde où les femmes ne sont pas en soi une marchandise, même si la sexualité est de plus en plus une marchandise avec Internet, les sites de rencontres, etc. Mais Pascasius, en 1561, raconte... Effectivement, j'ai vu un Vénitien qui avait joué sa propre femme, j'ai vu des gens jouer leurs dents et leurs sourcils, et j'ai vu quelqu'un qui avait mis sur son testament le fait qu'il voulait qu'après sa mort, ses os soient transformés en dés et sa peau serve à recouvrir une table de jeu. 1561.
Et 2013, au Timor, pareil, l'idée de jouer sa femme, on nous le raconte tout le temps. C'est-à-dire, on dit, ah ben oui, alors parce que les jeux en ligne arrivent à travers le pari sportif. Et donc là, il y avait l'Euro de foot le dernier, c'était 2000, je ne sais pas combien. Enfin bref, et donc il y avait une espèce de légende, je ne sais pas si c'était une légende urbaine ou pas, je n'ai pas pu remonter la source, qui disait, ah mais oui, mais il y en a qui ont joué leur femme au moment de l'Euro de foot. Voilà, donc c'est récurrent comme
c'est une régression sociale de, à l'époque où, dans les guerres, les femmes faisaient partie du butin.
Bonsoir. Je vais être un peu polémiste, j'espère que vous m'en excuserez, bien que j'ai trouvé vos remarques fort judicieuses, mais en même temps, j'ai trouvé un discours assez ambigu. J'ai entendu des expressions très fortes, impôt régressif, investissement très peu rentable, espoir illusoire, pardon, dégradation des conditions de vie, mécanisme spirale, etc., etc. J'ai aussi entendu au tout début de, votre, de vos interventions l'origine de vos employeurs. J'ai entendu le mot orange, j'ai entendu française des jeux et j'ai entendu PMU. Donc c'est vrai que je suis un peu gêné d'entendre tout ça parce que je n'ai pas trouvé un discours très critique. J'ai trouvé des explications rationnelles, j'ai trouvé des points de vue riches, mais je trouve que l'utilisation qui est faite actuellement des jeux de hasard est un vol qualifié même. En l'occurrence, vous avez bien précisé que c'était les plus pauvres qui en étaient les victimes. Et j'ai du mal à entendre tout ça parce que j'ai l'impression que la perspective un petit peu de critique a été absente. Je suis désolé d'avoir été un peu vif, mais j'ai été surpris de la manière dont vous avez abordé les choses.
Mon employeur à moi, c'est l'État français. Je suis maître de conférence en fait, à l'Université de Paris 13. Donc, mon salaire tous les mois, c'est l'Université de Paris 13. En revanche, on cherche de l'argent pour faire de la recherche et donc faire des missions. Et donc, les billets d'avion pour aller au Timor et pour aller en Haïti, ils ne sont pas donnés. Et donc, maintenant, dans la recherche comme ailleurs, on essaie de trouver de l'argent à droite, à gauche. Et du coup, voilà, il se trouve que j'ai trouvé cette espèce d'opportunité pour m'intéresser à la question des jeux en ayant des sous pour y aller. Alors, on me dit souvent, même quand je vais en Haïti, ils me disent « Ah, mais si tu travailles là-dessus sur Haïti, c'est parce que la Française des Jeux veut s'installer en Haïti. » Bon, loin de là, je pense qu'ils ont vraiment autre chose à faire. Et pareil pour le Timor. Donc, de façon assez égoïste, je laisserai mes camarades répondre, voilà. La question du jugement de ce sur quoi je travaille, enfin, c'est pas ça, c'est pas ce que je veux dire, c'est que là, nous, on essaie de comprendre des logiques d'organisation spatiale et de savoir comment sont connectés les lieux les uns aux autres. Moi, j'avoue qu'elle est... Parce que quand j'ai commencé à travailler sur les combats de coqs, notamment au Timor, on m'a dit « Mais c'est dégueulasse, c'est horrible, tu te rends pas compte, les combats de coqs, etc., etc. C'est sanguinaire. » Bon, voilà, on pourrait dire aussi il y a des animaux qui meurent et c'est peut-être plus grave que de perdre 25 dollars. Tout dépend de là où on place les curseurs. Mais en tout cas, j'ai choisi de façon tout à fait sciemment de m'extraire, j'avoue, de cette dimension-là morale. Moi, ce n'est pas ce qui m'intéresse dans mon terrain de recherche, dans mes terrains de recherche. C'est, voilà. Mais, et pour le coup, rendre des comptes à la Française des Jeux, honnêtement, ils n'ont même pas vu les films qu'on a fait, donc ils s'en foutent.
C'est une vraie question, que celle, en tout cas, du financement des recherches. Parce que c'est vrai que pour le moment, le centre le plus important de recherche sur le jeu excessif, c'est à Nantes, le centre de référence sur le jeu excessif, qui est financé par les opérateurs de jeu en l'absence de financement d'État. Pour ma part, je suis un médecin public, je n'ai jamais touché un sou d'aucun opérateur de jeu et d'aucun membre du cartel de Medellin ou de Cali ou d'Afghanistan ou des talibans qui fabriquent de l'héroïne. Sinon, je serais beaucoup plus riche que ce que je suis. Mais c'est un vrai problème parce qu'on l'a vu pour les recherches sur la nicotine qui a été financée par l'industrie du tabac. Et là aussi, je dis quand même que c'est un progrès qu'il existe un observatoire des jeux parce qu'une des tâches auxquelles s'attelle cet observatoire, c'est justement d'arriver à un financement des recherches qui soit indépendant des opérateurs. Il s'agirait effectivement d'utiliser l'argent du jeu, mais que ce ne soit pas au bon vouloir des opérateurs d'en décider. Parce que les mises du jeu en France, c'est 44 milliards d'euros par an quand même. C'est des sommes considérables. Moi, quand j'ai été nommé membre de du COGER en 2006, je suis arrivé naïvement la bouche en cœur en disant « il faut interdire le rapido, les mecs ». Et j'ai vite compris, avec tous les énarques de Bercy qui étaient là, que si on faisait ça, c'est la France qui était en faillite. C'était pas la Française des Jeux, c'était l'État qui était plombé. Donc on est obligé, comment dire, de faire des sevrages très dégressifs, parce que l'État est devenu très dépendant du jeu.
Oui. Il a développé une dépendance, mais qui est plutôt une dépendance, on va dire, à court terme, comme souvent le dépendant a une vision de court terme et non pas de long terme. parce que les coûts sociaux sont sans doute importants également. Et là, on n'est même pas. Il y a eu une enquête qui a été menée, mais qui n'a pas su donner un chiffre dessus. Et on commence à. Enfin, ce serait intéressant quand même de savoir quel est le coût réel, puisqu'on connaît le bénéfice, mais on ne connaît pas le coût. Mais vous posez une question qui est importante et ça a fait l'objet d'enquêtes, notamment en Angleterre, qui ont montré que. Qu'effectivement, les chercheurs sont massivement financés par la Française des Jeux, pas la Française des Jeux, pardon, par les Jeux, et que ça crée forcément un biais, évidemment. Mais ça crée un biais parce que même si on a toute la bonne volonté du monde, on ne va pas faire financer n'importe quelle enquête par la Française des Jeux. Et puis, même sans le vouloir, ça peut. On sert un discours qui permet, par exemple, par le biais de la question du jeu responsable, de dire que bah voilà, la Française des Jeux fait des choses puisqu'elle finance de la recherche. Donc, c'est vrai que c'est une façon. Bon, c'est vrai. En tout cas, moi, c'est. J'ai pas touché d'argent non plus de la Française des Jeux.
Alors moi j'ai touché de l'argent de la Française des Jeux pendant 3 ans. Sur la mention d'Orange, enfin Orange n'a rien à voir avec. C'est juste, c'est mon employeur. Mais la Française des Jeux, en effet, non. Enfin Orange vraiment. Enfin je travaille plus du tout sur les jeux d'argent, si vous voulez savoir, depuis la fin de ma thèse qui était financée par la Française des Jeux. Et c'est vrai qu'à l'époque, pour travailler sur les jeux d'argent, on en parlait avant de commencer. C'est vrai que les jeux d'argent, c'est pas conçu comme un sujet sérieux, en fait, comme quelque chose sur lequel il faut mettre en place des financements de chercheurs et de recherches, parce que voilà, c'est bien rigolo, mais bon, les joueurs du loto, bon voilà, on en a vu déjà beaucoup à la télévision. Et donc pour trouver un financement aujourd'hui, c'est pas forcément évident, et de plus en plus, de toute façon, le privé arrive en effet à l'université. Et moi, je m'en suis. J'ai toujours eu à m'en justifier hein, pendant toute la thèse, en disant, voilà, tu travailles pour la Française des Jeux, de toute façon, ce que tu vas dire, ceci, cela. Je pense que quand on est sociologue, on doit quand même avoir suffisamment de recul sur ces sujets et sur ces objets pour ne pas livrer tel quel le discours de l'entreprise. C'est un vrai combat au quotidien parce qu'on est à l'intérieur des locaux et donc on entend des choses et donc bon, bah, on essaie de se faire sa propre opinion. J'avoue que ça n'a pas été facile. Après, voilà, il y a tout un travail d'auto-analyse, de mise en place d'une méthodologie pour essayer de comprendre. Voilà, cette entreprise, dans quoi, comment elle a. Enfin, moi, mon sujet, c'était sur le passage à la libéralisation. Donc, la Française des Jeux était essentielle, était un acteur qui était touché de plein fouet par cette concurrence en ligne. Et donc, quand elle a décidé, quand l'État a décidé que le monopole s'était fini en ligne, ça a créé plein de choses. Et d'être à l'intérieur de l'entreprise à ce moment-là, pour un sociologue qui fait des enquêtes quali, et de faire de l'observation in situ, c'est passionnant. Et peu, en fait, peuvent le faire à ce moment-là. Et donc ça, je revendique vraiment cette position de chercheur en entreprise pour les résultats très fructueux qu'elle m'a permis de... Enfin, je pense, voilà, très modestement, d'acquérir. Donc je suis d'accord avec vous, il y a un problème de financement et de la recherche sur ces thématiques-là. Mais je ne pense pas que dans ce débat ce soir, on ait vraiment livré une vision très idyllique de ce marché-là. En effet, on a parlé de spirale du jeu excessif, on a parlé d'un jeu qui tentait peut-être plus les classes les plus populaires. Après, on est des chercheurs, loin de nous était l'idée de mener une polémique anti-opérateur, même si on sait qu'ils ont des positions très très ambivalentes. Ah, tout à fait. Mais c'est un vrai problème d'être chercheur en entreprise aussi, parce qu'on sait qu'on livre une possibilité de communication sur nos travaux. C'est-à-dire que moi, la Française des Jeux, je pense qu'elle s'est revendiquée de mes travaux en disant, voilà, je m'ouvre à la recherche et quelque part, c'est bon pour mon image. Mais ça, c'est la vision un peu cynique des choses. Et en même temps, je pense que la Française des Jeux a tiré parti des différentes thèses qu'elle a financées pour avancer aussi dans ses pratiques de jeu. Voilà, ça, est-ce que ça en fait un opérateur plus propre, plus responsable? Je ne sais pas, mais voilà.
Alors, on va peut-être prendre une dernière question.
Bonsoir. Bonsoir. Alors en fait, ce n'est pas vraiment des questions, c'était plus des petites réflexions qui me sont venues au fur et à mesure de, votre, de vos exposés, qui m'ont permis d'apprendre tout plein de choses, et je vous en remercie. En vous écoutant, je n'ai pas pu m'empêcher de prendre quelques notes et de me dire que par rapport à ces mécanismes de jeu, moi, je n'ai pas pu m'empêcher de faire le lien avec le mécanisme du surendettement, à savoir que... monsieur hoche la tête, donc voilà, je ne vais pas détailler. Il y a aussi un problème de création de fausses richesses, et je n'ai pas pu m'empêcher aussi de penser à tout ce qui est lié au training, les gens qui investissent de l'argent, qui, je sais que maintenant il y a des logiciels qui permettent de faire des choses de manière virtuelle aussi. Le côté guerre, violence par procuration, le côté cirque un peu, monsieur en a parlé aussi tout à l'heure, ça m'a fait penser à des choses très archaïques, et je me demande quelque part, ça m'a interpellée de voir qu'au XXIe siècle, on en est encore à ce mélange d'archaïsme, de rationalité. Enfin, c'est tout un superbe mélange, et en même temps, on voit qu'on n'a pas beaucoup évolué. Et quelque part, je me dis qu'il y a aussi une forme d'esclavage, parce que on se sort pas de ce mécanisme, d'après ce que j'ai pu voir. Et enfin, une dernière réflexion, et là, le monsieur des Antilles en a parlé tout à l'heure. Moi, je ne m'attendais pas à ce que les hommes pouvaient jouer leurs femmes, mais j'ai pensé aussi au proxénétisme. Il y a quand même une certaine façon de vendre des choses dont on n'est pas propriétaire et de récupérer beaucoup d'argent. Et effectivement, dans ce cadre-là, l'État est gagnant. Enfin, voilà, c'était des petites réflexions comme ça. Mais enfin, voilà, c'était... Merci encore pour tout ce que vous m'avez appris ce soir.
Oui, non, mais je crois qu'on peut être d'accord là-dessus. C'est d'une certaine manière une conclusion. On reste des êtres humains. On a une part archaïque. Il y a des choses qui peuvent avancer. On peut quand même penser, d'une certaine manière, que certaines formes de jeu sont quand même un progrès par rapport à la barbarie. Quand on regarde une Coupe du Monde de football, par exemple, beaucoup de gens disent oh, voir 11 types pousser une petite balle, etc. Et des peuples entiers qui s'enthousiasment pour ça. C'est-à-dire, mais si on met ça en comparaison avec une guerre mondiale, il y a quand même un sacré progrès. Donc c'est une virtualisation du conflit qui, au niveau de la civilisation, est quand même un progrès relatif. Il ne faut pas tout voir en noir non plus.
Merci.
Merci.